Alors, ça fait un bout que je ne me suis pas adressé à vous. Hein. J'étais en vacances avec les mois famille. Mais c'était bien hein, de voir ce personnage de Josué. Et je crois qu'on a beaucoup à méditer. Et on a besoin d'être fondé sur la parole. Alors ce matin, je vais aborder un sujet un peu plus, je dirais, pas forcément théorique, mais disons. Qui suppose de regarder dans l'ensemble de la Bible ce que dit la Bible sur notre identité. C'est déjà un thème qu'on a abordé, mais je m'aperçois que dans la pratique, hein, quand je discute avec les chrétiens, quand je m'entretiens avec eux, quand je vois un peu, etc., que cette question de l'identité n'est pas facile. Mais elle est facile pour personne. Elle est facile pour personne, ne serait-ce que vous avez entendu récemment, vous suivez les actualités comme moi, que il y a une question qui a été posée au Parlement sur l'identité nationale française. Hein? Il y en a qui ont suivi ce débat? Ouais. Alors vous êtes certainement plus informés que moi parce que j'ai pas suivi. Hein? J'ai juste, ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à une conclusion en tout cas, hein? Et que ça s'est terminé. On appelle ça un autre boudin, c'est ça? Ceux qui en savent, moi je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais j'ai vu que ça n'a pas débouché. Ça n'a pas débouché et même ça amenait des discordes. Hein. Ça soulevait des discordes. Hein. Ça prouve que pour faire une loi, hein, c'est pas évident. Hein. Pardon? Ah, pour nous dire ce qu'on est, voilà. C'est fort. Hein. Pourtant, vous reconnaissez, tout le monde a reconnu, si des parlementaires. Enfin, voulu en débattre, c'est que c'est une question importante. Hein. Donc c'est important, mais bon déjà c'est un peu agressant dans le sens où on va nous dire ce qu'on est, et en même temps c'est important de savoir qui on est. Parce que sinon, comment est-ce qu'on agit? Au nom de quoi est-ce qu'on agit? Au nom de quelle identité? Voyez-vous? Vous avez tous une carte d'identité, je suppose? Je sais pas si tout change maintenant, alors on ne sait plus. Hein. Vous avez une carte d'identité. Il y a un certain temps, je ne sais plus en quelle année, 2003, c'était un projet d'ailleurs, Yves l'a suscité, et je suis reconnaissant, sur cette identité. Et l'idée, c'était de faire sur l'année un projet d'une carte d'identité. Donc, j'ai oublié mon portefeuille, vous ne dites pas. Hein. Je suis arrêté sur la route, je l'ai laissé à la maison. Dans mon portefeuille, il y a deux cartes d'identité. J'ai une carte d'identité nationale française et j'ai une carte d'identité céleste. Et des fois j'ai tendance à la sortir. Ah non, non, ils vont. Et c'est la même forme, c'est plastifié, tout ça. Et ça reprend effectivement cette notion d'identité. Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis français? Oui. Est-ce que c'est ma seule identité? Est-ce que je suis mondialiste, universaliste, hein? Ça, c'est un peu le thème de tous ceux qui veulent unir, hein, qui veulent unifier l'universalisme. J'ai trouvé un thème universel, et encore, j'ai entendu à la radio, Napoléon, c'était son idée, hein, c'est de trouver des thèmes universels. Hein, c'est les grands qui veulent gouverner, ils veulent trouver quelque chose qui est universel, qui puisse s'appliquer à tout le monde, hein, le monde entier. Hein. Donc, c'est pas récent, ça a toujours existé. Mais nous, qui sommes-nous? Et je vois et je constate que les chrétiens, ils ont du mal avec ça. Alors, est-ce que nous voulons, comme à l'Assemblée nationale, dire vous voulez nous dire qui je suis? Là, on est différent, c'est parce que Dieu a le droit de nous dire qui nous sommes. Vous voyez? Amen. Parce qu'il est Seigneur, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il a le droit de nous dire qui nous sommes. C'est lui qui nous a créés. Donc, c'est important d'avoir une réponse à cette question d'identité. Il y en a qui sont d'accord avec moi? Je peux continuer le message? Mais en même temps, on voit énormément de variétés sur cette question d'identité entre les églises. Et là, je ne fais pas le procès des églises, hein, je fais le procès de nous-mêmes qui avons du mal à nous-mêmes à nous identifier. Quelle est notre identité? Donc, je voudrais un peu le clarifier. Et en même temps, le deuxième but, c'est que on a lancé grâce un enseignement qu'on a eu sur les médias, ce qui était sans rappel avec Greg Forrest. Et moi, je suis quelqu'un qui veut mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et une des mises en pratique, c'est qu'on va faire un clip vidéo qui va sortir en juin. Il y a Dan Wong qui travaille dessus, il y a Myriam Schott. Elle m'a dit qu'elle est finie, plus de trois quarts, là, elle a terminé son travail. Elle nous a fait des petits bonhommes spéciaux pour nous, enfin, un travail, quelque chose de bien. Vous allez voir, c'est superbe. Pour que ce clip ait une identité de notre Église, il faut aussi des visages de nous, hein, pas que des bonhommes qu'on imagine. Et donc il y aura des interviews de certaines personnes dans l'Église qui ont des choses à dire là-dessus. Donc c'est important que chacun connaisse un peu, disons, le contenu de cette identité. Hein. Donc on ne veut pas ni rentrer dans une polémique, ni des divergences de vues, mais on veut voir ce que la parole de Dieu dit sur ce que nous sommes. C'est un défi qui est lancé par cette vision de l'Église, qu'on appelle la vision. Et la plupart du temps, je ne peux pas donner le pourcentage, mais plus de 90%, je me perçois, en tout cas dans mes recherches, que les visions de l'identité ne sont pas données par les Églises, sur les sites web, puisque maintenant, presque toutes les Églises ont des sites web, donc on le voit. La question d'identité n'est pas abordée. La vision aborde la question de l'avenir, c'est-à-dire son projet dans le futur. Tout le monde a une vision du futur. Mais je trouve qu'avoir une vision du futur, en plus certaines visions, bon, je ne veux pas nommer des personnes qui ont passé ici, mais certains qui ont dit ma vision, c'est une église de 85 000 personnes. Moi, je trouve que c'est un peu frustrant, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir ce chiffre-là. Oui. Et pour atteindre ce chiffre, est-ce qu'on va manipuler pour essayer de l'avoir? Vous voyez, c'est des objectifs qui, pour moi, sont quand même des objectifs qui ne sont pas réalistes. Donc moi, je préfère des objectifs qualitatifs. C'est-à-dire, nous avons des objectifs, et dans cette vision, on parle de la vision du futur, mais vous verrez tout à l'heure un peu sous quel terme, plutôt sur l'aspect qualitatif. Pour que nous ne perdions pas de vue que notre Seigneur, c'est lui qui a les choses dans sa main, et c'est lui qui appelle, c'est lui qui sauve. Nous pouvons témoigner, mais malheureusement, nous ne pouvons pas sauver. Parce que c'est une question de cœur, qui doit se tourner vers Dieu, qui doit se repentir. Voilà donc la vision, en tout cas telle que nous la présentons, et j'espère que Steve Fry pourra venir en fin d'année, en tout cas j'ai lancé cette invitation. Steve Fry a cette même vision de l'être. La vision, c'est l'être, notre identité. Et quand nous savons qui nous sommes, et je crois que les apôtres, les premiers chrétiens, savaient qui ils étaient. Et c'est grâce à cette connaissance qu'ils ont pu être des martyrs, ils ont pu aller jusqu'au martyr. C'est ne pas céder sous la pression d'ennemis pour leur faire croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient en qui ils ont cru. Ils savaient qui était Christ, ils savaient qui était leur Dieu, ils savaient devant qui ils ont donné leur vie, et ils ont pu aller jusqu'au martyr. Et c'est ça être un chrétien, c'est de savoir que nous existons en tant que chrétiens. Donc la vision décrit cette nouvelle identité de l'être, c'est la vision d'une nouvelle race et de son fonctionnement. Parce qu'avant de faire, parce que nous avons des choses à faire, ce sera la mission. Dieu nous a confié une mission, d'y aller par tout le monde et faire des disciples. Mais avant de faire la mission, est-ce que nous pouvons faire des disciples de qui? De nous, des hommes, d'une église ou de Christ, voyez? Donc si notre identité est bien stable, nous pouvons aussi amener des disciples vers Christ et pas vers nous. Et c'est là que nous avons souvent l'ambiguïté dans certaines églises ou certains prédicateurs. Donc avant de faire, il faut savoir qui on est. Qui est Dieu? Qui on est? Qui est Dieu? Connaître celui qui nous missionne avant d'aller en mission. Qui nous missionne? Parce que dans la mission, et quand je dis mission, ce n'est pas forcément en Afrique ou dans le. Mais la mission, c'est notre travail. Hein. Quand on est en mission, on a des frustrations. Il y en a qui n'ont pas de frustrations quand ils témoignent, quand ils. Alors il y a des joies aussi. Hein. Surtout quand une personne se donne au Seigneur. Mais ce n'est pas tous les jours le cas, hein, quand on témoigne. Hein. Et très souvent, on est arrêté parce qu'on a plus de frustration que de joie dans le témoignage. Et surtout en France, hein, beaucoup de chrétiens ont abandonné le témoignage parce qu'ils n'ont pas le résultat attendu, parce qu'ils sont frustrés. Donc la frustration, donc de la part des personnes, quand on ne sait pas qui est Dieu, souvent on l'attribue à Dieu, c'est-à-dire on en veut à Dieu. même inconsciemment, parce que Dieu ne permet pas que ça marche, parce que Dieu ceci, Dieu cela, etc. Et on voit des chrétiens qui deviennent frustrés. Vous en avez rencontré déjà ? Qui dans leur vie, à cause du fait que ça ne marchait pas, ils l'attribuent à Dieu. Et ça, c'est parce que si on ne connaît pas vraiment Dieu avant de dernière mission, eh bien, on a cette tendance à attribuer les échecs, ou les difficultés, ou les problèmes à Dieu. Et il ne faut surtout pas en arriver là. Parce que sinon, on a tout perdu. On a perdu notre vie et celle des autres. Donc ce clip vidéo qu'on va faire, et qui va bientôt sortir, est important. Et il est important que ceux qui vont porter témoignage dans ce clip, eh bien, sachent le contenu de la vision. Donc la vision, elle a d'abord, je pourrais dire, trois fondamentaux, notre identité. Si nous voulons avoir cette identité que la Bible nous indique, il faut d'abord accueillir le plan de Dieu dans nos vies. Donc la première chose, c'est accueillir le plan de Dieu dans nos vies. La première chose. Si nous voulons effectivement que notre identité soit bien assise dans cette dimension biblique chrétienne, il faut d'abord recevoir le plan de Dieu. Parce que nous avons tous des plans. Nous formons des plans nous-mêmes dans notre vie, les hommes en forment pour nous, les gouvernants en forment, enfin, vous voyez, cette identité nationale française, là, justement, c'est, ils veulent nous imposer une certaine identité, donc on la rejette, enfin, on voit bien cette ambiguïté des plans que les hommes ont sur nous, ou que nous-mêmes nous avons sur nous. Et notre identité est réellement bien calée si nous acceptons le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu ? Quelqu'un qui peut se lancer à le résumer en une toute petite phrase, en quelques mots, le plan de Dieu pour nous, enfin, déjà pour l'humanité, hein, parce qu'après on a le salut, oui. Alors, on peut développer, justement, je voudrais développer le plan du salut. Quelqu'un peut développer le plan du salut et le plan de Dieu en termes d'identité. Oui, donc ça c'est le plan du salut. Fait. Encore une tentative de définition du plan de Dieu. Le bien-être, oui. Mais plus que le bien-être, il a un plan particulier pour l'humanité. Hein. Oui, par rapport aux animaux, Dieu a un plan. Les animaux sont les créatures. Nous sommes des créatures hein, devant Dieu. Mais il avait un plan pour l'homme. Pardon ? Alors, un, la relation avec lui, ça c'est absolument important, qu'on règne avec lui. Pardon ? Vivre dans l'alliance avec Dieu, bon, je mettrais ça dans la relation, oui, puisse le connaître. Mais quelque chose d'important dans la Genèse, parce que si vous voulez revenir au fondement de l'identité... Pardon ? Voilà, qu'on domine. Alors, le mot dominer, bien sûr, a une... Yeah. Voilà. C'est pour ça que je vais dire un mot. C'est pour ça que je vais éclairer le mot dominer. Le verbe utilisé dans la Bible, c'est dominer. Le problème, c'est que les hommes ont tellement abusé de ce mot. C'est comme l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi, c'est l'amour de l'argent. Donc c'est l'amour de la domination qui est mauvaise, qui donne l'autoritarisme. L'autorité n'est pas mauvaise, c'est l'autoritarisme. C'est l'amour de l'autorité, c'est l'amour de la domination. Vous voyez ? Et donc les hommes ont. Elles aiment la domination parce que, si vous voulez, il faut savoir un principe, je le répète sans arrêt, quand on n'adore pas Dieu, on n'a qu'une seule alternative, c'est d'adorer la création. Donc on est idolâtre. On est naturellement idolâtre, voyez-vous, tant qu'on n'adore pas Dieu. Parce que nous sommes faits pour ça. C'est la relation avec Dieu qui nous donne notre identité, donc c'est en adorant Dieu que nous évitons l'idolâtrie. Mais sinon, nous y tombons. Et c'est pour ça qu'Israël, tout le temps est tombé dans l'idolâtrie dès qu'ils abandonnaient le culte à Dieu, vous voyez. C'est quelque chose d'automatique, il faut le savoir. C'est comme la gravité, on ne peut pas y échapper. Et les hommes deviennent idolâtres à leur insu s'ils n'adorent pas Dieu. Et nous, nous devenons idolâtres à notre insu si nous n'adorons pas Dieu, c'est tout. Et donc, au départ, le plan de Dieu, c'était bien sûr, dans la relation avec Dieu, dominer sur la création. Dominer sur la création. C'est que l'homme devait dominer sur les animaux, devait dominer sur la nature, sur les jardins, enfin, le jardin au sens très noble du terme, sur la création tout entière, quoi. Et pas d'être dominé. Le problème d'Adam, c'est que il a perverti le plan de Dieu à travers la chute, qui a fait qu'il a perdu cet héritage. Et nous, avec lui, nous perdons l'héritage de la domination. Donc nous rentrons dans un amour de la domination, donc on devient dominateur. Mais on a perdu la capacité de gérer, je dirais plutôt la gestion, la bonne gestion de la nature, de la création. Voyez-vous, c'est dans ce terme-là que je comprends domination. Cette gestion qui nous a fait, c'est-à-dire c'est quelque chose de très noble qui nous a donné, nous l'avons perdu. Si nous revenons à ce plan de Dieu, donc dominer dans une relation sous l'autorité de Dieu, donc assurer une bonne gestion, alors là nous retrouvons une identité telle que Dieu l'a voulu pour nous dans notre capacité d'être et de faire. Être parce que nous recevons notre être par la relation avec Dieu et nous pouvons faire dans une bonne gestion selon le plan de Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier point qui nous confère notre véritable identité. Le deuxième point, alors ça c'est un plan universel, comme je disais tout à l'heure, pour tout le monde, mais il y a un plan spécifique. Chacun d'entre nous reçoit en plus de ce plan général un plan spécifique. Et celui-là, il faut aussi le chercher, mais ça c'est personnel, à chacun de nous, Dieu a un plan. Il l'a dit que notre destinée est dans sa main. Et il nous connaît. Et il veut que nous fassions quelque chose. Alors c'est beaucoup plus restreint ce plan. Hein. Bah, pour chacun c'est spécifique. Hein. Mais donc il faut rentrer dans ce plan. Il faut chercher ce plan. Et on le développera un peu plus tard. Le deuxième fondamental, je dirais, de l'identité, de la vision, c'est bénéficier de la sagesse de Dieu. Alors sagesse, c'est pareil, c'est un mot, j'ai beaucoup cherché à le comprendre, parce que les gens qui veulent dominer, les gens qui veulent gouverner, cherchent la sagesse. Hein. Tout le monde cherche la sagesse. Les francs-maçons, c'est l'obsession, la sagesse. Comment vous donneriez, quelle définition vous donneriez au mot sagesse biblique? Oui, oui, ça, tout à fait. La suite de la phrase, je ne vous la donne pas, mais c'est « méfiez-vous de la sagesse des hommes hein. ». Mais cette sagesse est folie, parce qu'ils cherchent la sagesse des hommes. Mais le mot sagesse, c'est un mot discernement, obéissance. Qu'est-ce que vous comprenez quand je dis sagesse? Vous comprenez quelque chose? Sage, oui. Pardon? Qu'est-ce que vous comprenez quand vous entendez sagesse? Parce que vous voyez, les mots c'est bien, hein, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière le mot, ce qu'on appelle l'étymologie. La connaissance de Dieu. Pardon? De? À douceur, douceur, pardon. Douceur. Faire les... Ah, on commence à chauffer là. Les aides Pâques. Vous savez, on a beaucoup de mal, enfin je vous le dis parce que je suis dans l'eau, hein, on a beaucoup de mal, nous, Français de culture grecque, à comprendre les mots bibliques. Parce qu'ils ne découlent pas du grec, bien que le Nouveau Testament ait été écrit en grec, mais ils découlent de la pensée sémitique, hébraïque. Et il n'est pas du tout pareil que la pensée grecque. Voyez. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on ne trouve pas naturellement, bon, bien sûr, si vous aviez un petit Robert, vous le trouveriez, ce que j'attends de vous. Parce que les académiciens ils se sont penchés sur chaque mot. Mais la pensée sémitique de sagesse, c'est très simple. Ce n'est pas des grandes philosophies, c'est simplement comment se comporter pratiquement dans la vie. C'est compliqué ça? Comment se comporter pratiquement dans la vie? C'est tout simple, la sagesse. Comment je me comporte de manière sage, oui, hein, mais pratique. C'est une sagesse pratique. La Bible, c'est une sagesse pratique. La sagesse des hommes, là, dont on parlait tout à l'heure, dont il faut se méfier, c'est quoi cette sagesse, en particulier grecque, qui est véhiculée, franc-maçon et autres? Non, c'est pire que ça. C'est une sagesse spéculative. Alors, je vais utiliser un mot un peu barbare, c'est quoi spéculatif? C'est-à-dire, c'est... Non, pas que calculatrice. Spéculatif, ça veut dire c'est que une projection d'un idéal, donc c'est pas du tout pratique. Voilà. Voilà, c'est une... voilà, tout à fait, tu as tout compris. C'est une idéologie, c'est une idée. C'est-à-dire que c'est-à-dire comment l'homme devrait se comporter idéalement. Et ces gens-là, en général, c'est des dominateurs. Hein. Ils visent, eux-mêmes, ils ne le font pas. Hein. Ils sont incapables de faire ce qu'ils voudraient que les autres fassent. Hein. C'est ça, la spéculation. Donc, ils spéculent sur le comportement que vous devez avoir. Eux, ils masquent. Bon, est-ce qu'ils ont une capacité de masquer leur propre déficience? C'est ce qu'on appelle les pharisiens. Ils étaient spéculatifs. Ils étaient dans la sagesse hein, humaine. Mais, vous voyez, là, je vais mon message, c'est pas sur la sagesse, mais on peut revenir là-dessus. Mais bénéficier de la sagesse de Dieu, c'est bénéficier d'un comportement pratique au quotidien, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important. Et ça, ça nous permet d'avoir une identité selon le royaume de Dieu, parce que c'est Christ en nous qui va nous donner cette sagesse pratique, cette sagesse. Parce que Christ est notre sagesse. Amen. C'est Christ qui est sagesse. Allô? Est-ce que Christ s'est bien comporté dans la vie? Eh bien, nous pouvons nous comporter pareil parce que nous recevons Christ, qui est sagesse et qui nous permet de nous comporter tous les jours de manière pratique dans la vie selon les enseignements du royaume. Allô? Qu'est-ce qu'il y a imprévisible? Ah oui. Bah bon, il y a une certaine prévisibilité dans le sens où que Christ a fait, je pense que hein, on a un modèle. Alors le troisième fondamentaux, je dirais les fondamentaux de l'identité, c'est centrer sa vie sur Christ. Bon, pour ceux qui veulent un peu faire la différence entre les protestants et les évangéliques, le secret il est là. Les protestants, ils ont établit le fondement de la parole, sola scriptura, la parole seule. Parce que dans l'Église catholique de l'époque, la parole de Dieu, c'était bien loin derrière. On avait la Vulgate de Jérôme, Saint Jérôme, pas notre Jérôme à nous, Saint Jérôme qui avait traduit en latin, mais elle était utilisée juste pour soutenir les dogmes. Hein. Mais l'Écriture n'était pas connue. D'ailleurs, c'est au Concile de Trente hein, qu'ils ont fondé l'écriture des catholiques, enfin les livres qu'ils mettent dedans, et ils ont mis les apocryphes. Et les évangéliques, ils ont recentré sur Christ. Protestants, la parole, évangéliques sur Christ. Si vous savez ça, vous faites la différence entre les deux. Et donc c'est complémentaire, ce n'est pas antinomique. Protestants, nous on est fondés sur la parole, allons, mais la parole c'est Christ aussi. Et Christ, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous sommes en relation avec Christ. Donc, c'est un fondement important de notre identité. Quand nous centrons notre vie sur Christ, Christ seul, eh bien là, nous obtenons notre identité, puisque c'est Christ qui est en nous. Nous centrons sur Christ. Alors, dans cette centration, je dirais, sur Christ, hein, il y a trois niveaux qu'on appelle de maturité, de croissance spirituelle. Parce que quand on se centre sur Christ, au départ, on a la nouvelle naissance. Okay? Dans cette nouvelle naissance, nous recevons, disons, les éléments d'une nouvelle race. Hein? Alors, je voudrais juste dire un mot sur la semence. Dans la semence divine qu'apporte le Saint-Esprit, il y a le Seigneur Jésus. Dieu est dans sa parole, sa vie, sa personne, ses attributs, son pouvoir. Rappelez-vous, quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Marie a enfanté Jésus. Et c'est lui qui a amené la semence. C'est pas son mari, comment ça s'appelle, Joseph. C'est pas Joseph, c'est le Saint-Esprit. Il a amené la semence divine. Donc, c'est pour ça que Christ était homme et il était Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui a amené cette semence. Dans Pierre, pouvez noter la référence, 1 Pierre 1, 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voyez-vous, la semence que nous avons reçue à la nouvelle naissance, c'est une semence incorruptible. C'est pourquoi, naturellement, nous allons mourir, mais surnaturellement, nous allons vivre éternellement, parce que la semence que nous avons reçue par le Saint-Esprit est incorruptible, comme Jésus d'ailleurs. Le mot semence en grec veut dire sperme. C'est le même mot. Nous voyons déjà donc dans la Genèse l'opposition entre deux semences, entre deux spermes. Si vous prenez Genèse 3,15, il est écrit, c'est après la chute, hein, c'est déjà l'annonce de la restauration, l'annonce du salut, « Je mettrai inimitié entre la semence du serpent et celle de la femme. » Ça veut dire quoi? La semence du serpent, c'est ce qui a été injecté par le serpent, par Satan, dans l'être de la race adamique, Adam et Ève. Okay. Qu'est-ce qu'il a mis comme semence dans cette qui d'ailleurs de génération en génération se reproduit? C'est le péché. Il a mis, comme on appelle un input, hein, dans un terme informatique, dans ce qui a été créé de bon, il a mis un germe qui ne peut plus s'enlever. Il ne peut plus s'enlever. Donc naturellement, nous sommes tous pécheurs. Naturellement, nous avons cette semence, hein, que nous transmettons à nos enfants, etc., de faire une race de pécheurs. Et c'est pour ça qu'il faut le salut en Jésus-Christ. Et la semence de la femme, là, il est question de ce qui va arriver à Marie. Alors, voyez-vous, donc déjà dans la Genèse, Dieu révèle son plan. Nous avons parlé du plan tout à l'heure. Il donne cette semence à Marie, qui est conçue, enfin, Jésus est conçu du Saint-Esprit par Marie, et cette semence, c'est une semence incorruptible qui, elle seule, a la capacité de détruire les œuvres du diable. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le diable, sur Satan, sans cette semence incorruptible, auquel il ne peut pas toucher. Le diable ne peut plus toucher à cette semence-là, hein, parce que Dieu lui interdit d'y toucher, parce que c'est l'œuvre de Dieu, alors que l'autre, c'est notre œuvre à nous, c'est notre œuvre malheureusement humaine, de péché et de faillite. Par la semence sont transmises, vous le savez maintenant, les caractéristiques d'une espèce. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Le mot régénération, il comporte le mot ré, génération, régénération. Donc vous voyez, c'est une nouvelle génération. Régénérer, c'est une nouvelle génération. Il y a aussi le mot gène ou génétique. Donc, par la régénération, un nouveau code génétique, un nouvel ADN est introduit dans le croyant. Voyez-vous, nous avons notre ADN que nous transmettons de père en fils ou de mère en fille ou fils. Et en Jésus-Christ, par notre nouvelle naissance, nous recevons l'ADN de Christ, qui lui est incorruptible. Ok ? Un être nouveau est créé en lui, une nouvelle espèce est née. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne sais pas ces choses, mais oui, il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas le savoir de toi-même. C'est quelque chose qui est implémenté en toi, c'est un nouvel ADN. Tu as ton ancien ADN, mais tu as un nouvel ADN qui est celui de Christ. Dans Éphésiens 4, verset 24, il est dit, l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On reviendra sur ce point au niveau de la vision. Donc le code génétique de cet homme nouveau est divin. Regardez Pierre aussi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Pierre nous dit, sa gloire, donc la gloire de Dieu, et sa vertu. Et là aussi, c'est un élément important. Sa gloire et sa vertu. Vertu vient du mot virilité, vir. Virilité, c'est-à-dire c'est être un homme. Hein. Vertu, sa force, son énergie, etc. Sa gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, donc par la gloire et la vertu, vous deveniez participants de la nature divine. Naturellement, nous sommes participants de la nature humaine. Adam, par notre naissance naturelle. Par la gloire et la vertu de Dieu, la puissance, l'énergie, la virilité de Dieu et de Christ, qui met son ADN en nous, nous devenons participants de la nature de Dieu. Vous, la nature de Dieu, le Nouvel Âge, bien sûr, dit « vous êtes Dieu », bon, non. Nous sommes de la nature de Dieu par sa gloire et sa vertu qu'il nous confère par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il y en a qui sont passés par la nouvelle naissance ou pas ? Bon, là se pose la question et il faut que chacun de nous, nous répondions à cette question. Est-ce que je suis né d'en haut ? Nous recevons en travers la semence incorruptible, la vie et la nature de Dieu. Voyez-vous, dans le domaine végétal, là, tous les végétaux qui commencent à sortir de terre, vous savez qu'une semence va produire les caractéristiques de la future plante. Hein, vous avez un petit grain de blé, il va donner du blé. Vous avez un grain de pommier, il va donner un pommier, etc. Parce que dans l'ADN, il y a les caractéristiques de ce qui va sortir plus tard. Hein. Et dans la parole de Dieu, eh bien, il y a tout ce dont nous avons besoin pour retrouver l'image de Christ. Est-ce que pour autant nous sommes à l'image de Christ ? Non. Mais dans la parole, tout y est. Et donc il faut que nous nous rapprochions de cette parole, il faut que nous l'assimilions, il faut que nous pratiquions, il faut que par la sagesse de Dieu, eh bien, nous puissions faire au quotidien eh bien, tout ce qu'il faut pour que cette caractéristique de cette nouvelle race puisse transparaître au travers de notre vie. À la nouvelle naissance, l'ADN de Dieu, sa vie éternelle, est mise dans notre esprit. Parce que nous avons un esprit, un âme et un corps. Prenez Colossiens, chapitre 2, verset 10. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Toute chose dans cette nouvelle nature, nous l'avons en lui. Dans Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors le problème, quand on n'a pas une vision de ce qu'est un chrétien, l'identité chrétienne, ce verset est très mal compris. Très mal compris. Beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ce verset ou l'enseignent mal. Et on a l'impression qu'on est chrétien, on a une nouvelle création, et voilà, c'est vrai, oui et non. C'est vrai au sens de la naissance, mais après, il faut croître, il faut grandir dans cette nature, voyez. Et elle est là, c'est vrai, l'ADN est là, elle est en nous, dans l'ADN, il y a tout. Vous avez la semence du grain de blé, vous avez le blé, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez manger ce blé? Oui, mais vous n'avez plus rien après. Donc, il faut le mettre en terre. Il faut qu'ils produisent, et ensuite vous récoltez, vous remettez une partie de la semence, et c'est comme ça que fait l'homme. Parce qu'il ne peut pas inventer le blé, c'est Dieu qui l'a donné. Hein. La vie, il n'y a que Dieu qui la donne. Dans aucun laboratoire, on peut faire de la vie. Donc on prend la vie, on la met en terre, elle produit, et puis après on la réutilise. Mais dans le grain de blé, il y a toutes les caractéristiques du blé, mais il faut qu'il produise du fruit. Et nous, on doit produire du fruit. Et Jésus a dit, vous glorifiez Dieu si vous produisez du fruit. Parce que le fait d'avoir l'ADN en nous, le petit grain de chrétien, ça ne suffit pas. Parce que c'est par grâce que nous l'avons reçu, mais nous n'avons rien fait jusque-là. Donc, et c'est la caractéristique du protestantisme, c'est de responsabiliser le chrétien. Et dans la vision, il y a la notion de responsabilité. Nous avons reçu grâce sur grâce, nous avons reçu le plan de Dieu, nous avons reçu la sagesse de Dieu, nous avons reçu Christ, mais, Dieu nous rend responsable. Parce que nous sommes libres. Parce que nous avons une volonté libre. Parce que nous pouvons refuser, nous pouvons accepter. Et là, nous avons une responsabilité pour la croissance. Dans Actes 17, verset 28, il est dit, de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, etc. Donc la race. L'Église de Jésus-Christ est la race de Dieu. Vous êtes une race royale, un peuple élu, dira Pierre. Une race. Une race, c'est quelque chose qui se produit de génération en génération. C'est une lignée. Les animaux ne sont pas de la race de Dieu. Les animaux sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas de la race de Dieu. Allô ? Vous êtes d'accord ? C'est la Bible qui le dit. Donc nous avons une identité particulière. Nous ne pouvons pas être comparés à un singe ou à un chimpanzé. C'est pour ça que la relativité, enfin, ce que je raconte, l'évolution, pardon, darwinisme, bon, bien sûr, il y a des choses vraies, il y a des choses qui évoluent, mais vous voyez, ça devient une idéologie, ça devient une spéculation anti-Dieu. Parce que l'idée derrière que Satan a mis, et ça a tout cassé depuis cette théorie de l'évolution, mais il ne faut pas s'en moquer, hein, parce que, attention, il y a une puissance spirituelle derrière. Il faut respecter le fait que nous ne sommes pas grand-chose hein, et que nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu pour vivre en chrétien. Donc, nous sommes de la race de Dieu et les animaux n'ont rien à voir avec la race de Dieu. C'est des créatures. Les enfants de Dieu ont été engendrés de la nature divine. Nous recevons l'héritage de Dieu. Donc cette domination sur les choses. Et son but est de nous préparer pour le règne éternel. Le salut de Dieu, Dieu nous sauve pour que nous puissions régner avec lui, quelqu'un l'a dit au début. Mais voyez-vous, ça c'est l'étape de la croissance. Nous devons grandir pour apprendre le règne de Dieu. Et Dieu veut que nous grandissions. Un bébé, vous avez déjà vu Johan, bon, maintenant il est plus grand, mais est-ce qu'il va régner? Est-ce que tu laisses régner sur toute ta maison? Ce serait beau, hein? Voilà. Eh bien, souvent, c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Ils naissent de nouveau, et tout de suite, c'est pour ça que Paul dira, ne donne jamais une responsabilité à un nouveau converti. Parce qu'il va être enflé d'orgueil, tout ça. Bien sûr, apparemment, c'est un adulte. C'est comme, vous connaissez aussi certaines personnes qui ont eu des traumatismes dans l'enfance, même qu'ils ont 80 ans, ils sont enfants. Leur stade, c'est arrêté. Et vous ne pouvez pas leur confier de responsabilité. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont déjà du mal à se responsabiliser eux-mêmes. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Quand on n'a pas une vision de ce qu'est un chrétien, selon la Bible, eh bien, on fait un peu n'importe quoi. Sous prétexte, s'il y a quelqu'un un talent, hop, on lui donne la louange, on lui donne ceci, cela. Non, mes amis, c'est pas comme ça. Pour régner avec Christ, c'est un processus dans lequel Dieu nous amène pour croître et savoir prendre des responsabilités. La mentalité du royaume, pour régner, c'est de renoncer à nous-mêmes pour que Christ prenne toute la place au travers de nous. Et là, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que, naturellement, surtout si on a été enseigné à faire soi-même beaucoup de choses, dire « je renonce à ça pour accepter Christ », tout en utilisant quand même les dons qu'ils m'ont donné, ça c'est un apprentissage d'humilité qui n'est pas évident. Être la race de Dieu, c'est la nouvelle vie en Christ. Être en Christ, ce n'est plus être le même homme, la même femme, c'est laisser vivre et paraître Christ en nous. C'est la personnalité de Christ qui doit être en nous, elle doit dominer notre ancienne nature. Amen. Alors, la vision, elle a ses trois fondamentaux et elle décrit dans ce terme de centrer sa vie, trois choses qui nous font grandir. La première chose qui nous fait grandir, le fait de se centrer sur Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre dans notre vie chrétienne. C'est la base. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça, et ils restent toujours bébés en Christ. La première base, c'est notre vocation. Ah, quelle est notre vocation ? Il y en a qui ont du mal avec ça. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas vraiment leur vocation? Peut-être que vous n'osiez pas vous signaler, c'est pas grave. Mais je le dis ici, je sais que des chrétiens ne connaissent pas leur vocation. Quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Ils ne peuvent pas répondre. Et ça, c'est la base. Moi, dans mon entreprise, à la fin, je faisais de la stratégie pour l'entreprise sur 10, 20, 30 ans. La première chose qu'on cherche, c'est de chercher à trouver la vocation. La seule différence dans le monde, c'est que la vocation, elle est cherchée, disons, dans la raison humaine, en en termes de qu'est-ce que je veux devenir ou qu'est-ce que je veux être. Voyez-vous, nous, par exemple, on voulait être les leaders du transport spatial. Bon. Donc c'est une intention forte à laquelle on tient pour y arriver. Donc on la donne au départ. On est déjà leader, mais on n'est peut-être pas le premier dans le monde, donc on veut être le premier dans le monde. Donc on se donne une intention. C'est une vocation, mais qui est donnée par l'homme. Mais mes chers amis, nous sommes chrétiens. Allô ? Nous avons la nature divine en nous. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu, il a une intention pour nous ? Il y en a qui sont polytechniques, polyvalents. Non, mais au moins une attention. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a son plan personnel, son plan ministère, etc. Mais la vocation, si nous ne savons pas quelle est notre vocation ici-bas. Oui, bon, je ne pas, vu l'heure, je ne peux pas rentrer dans les détails de la vocation, mais c'est juste pour vous dire, réfléchissez à ça. Et moi, je connais des chrétiens très bien. Ils sont dans les ministères et tout ça. Quand je leur pose la question, ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre. C'est tout, hein, je constate. Hein. Donc, la vocation, c'est absolument fondamental dans la croissance au départ. Le deuxième point, et je vais essayer de terminer juste ces deux points-là. Le deuxième point qui vous permet, alors, ça correspond, à mon avis, au niveau de l'étape de Népios. Népios, ça veut dire enfant. Pierre dira, non, c'est Jean, pardon. Jean, à chaque fois je confonds les épîtres, 1 Jean 2,15, il dit, et c'est un verset qui se répète, c'est assez particulier ce verset-là, très très important, il dit, vous êtes des enfants, donc il définit ces trois niveaux, les enfants qui connaissent leur père, donc on connaît le père, vous êtes des enfants, ça c'est le niveau de l'enfance, le niveau du jeune homme hein, qui a vaincu Satan, c'est la vérité. Qu'est-ce que fait la vérité ? La vérité, elle rend libre, elle affranchit, elle rend libre. Je parlais des Français là, vous voulez être libre là. Liberté, hein, c'est notre mot d'ordre. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté, c'est quoi ? Notre identité, c'est d'être libre par la vérité. Mais quelle vérité ? C'est quelle vérité ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi la vérité ? Donnez-moi un autre nom pour vérité. Pour... Moi, j'associe toujours vérité à réalité. La réalité. Ce qui est vrai, ce qui est réel. Dieu, vous croyez que Dieu est réel ? Vous savez, là, à Aubergenville, il y a des libres penseurs et ils viennent m'agresser, enfin, plus maintenant, mais ils disent, mais non, mais la religion, c'est une invention de l'homme. Dieu, c'est une invention de l'homme. Ah oui, bien sûr, s'il n'y a pas de réalité derrière Dieu, c'est une invention de l'homme. Dieu invente l'homme pour opprimer les autres, la religion, etc. Là, ils ont raison. S'ils sont dans cette spéculation, ils sont tout à fait logiques. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu existe, il y en a qui croient que Dieu existe. Mais non, mais on est dans les fondements. Il est réel. Il est réel comme vous pouvez toucher la chaise ou votre voisin. Donc s'il est réel... Ça veut dire la vérité, c'est ce qui est réel. Et quand vous arrivez à la réalité, je vais vous dire, Satan, c'est le prince de quoi par rapport à ça ? De l'illusion. C'est un illusionniste. Il n'est pas dans la vérité. Il fait illusion. Vous voyez, l'opposé de la vérité, c'est l'illusion. La réalité, vérité. Et Jésus nous amène dans la réalité. C'est pour ça qu'on ne peut jamais être déçu avec Jésus. Moi, je rigolais un peu dans ma barbe, mais au travail, il y en a qui voulaient prendre ma place, vous connaissez tout ça, etc. Et bon, je voyais que les éléments qui manipulaient, heureusement, je ne suis pas dans l'administration, je n'ai jamais aimé l'administration, je suis dans l'industrie. Et dans l'industrie, on manipule les lois physiques. Et je savais qu'à un moment donné, il allait se planter, et je le voyais se planter, parce que la loi physique, je le savais qu'elle allait réagir, et tac, le gars, il se faisait étamer. Et ben, il faisait des grands trucs, je savais que ce n'est pas possible. Donc, moi j'aimais bien l'industrie parce qu'à un moment donné, tac, la loi physique, Dieu a créé, elle donne son verdict. C'est la réalité derrière qui est importante. Et là, on est dans la réalité. Et quand on ne tient pas compte de la réalité, et le problème du chrétien, c'est que la plupart du temps, il est dans le mensonge. Mensonge vis-à-vis de lui, mensonge vis-à-vis du passé, mensonge vis-à-vis. C'est le déni, ce qu'on appelle le déni. Hein, et il faut guérir de ça. Je lis beaucoup de livres là-dessus. parce que le mensonge est une plaie. Une plaie pour grandir dans la vie spirituelle. Et on reviendra là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, peut-être que vous avez tous deviné, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le troisième niveau qui est des pères. Vous devez être des pères. Voyez-vous ? Dieu veut que nous grandissions dans notre vie chrétienne, dans notre identité chrétienne, pour devenir des pères. Paul utilisera le mot télios. Télios, c'est un mot, on a beaucoup critiqué Paul pour utiliser ce mot-là. Il était utilisé dans les loges secrètes, etc., pour parler de perfection, des parfaits. Il y en a qui veulent être des parfaits ici, des pères. Non, mais c'est une bonne ambition. Hein, c'est des pères et des mères, oui. Il y en a qui veulent devenir des télios. Alors qu'est-ce qu'il vous faut là? Qu'est-ce qu'il faut comme fondamental dans votre vie? Alors je vous donne un secret pour le retenir. Ici, c'est un acrostiche, c'est l'ABC. C'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin de notes, parce que je sais tout par cœur, grâce à ça. Hein. Ah oui. C'est l'ABC, c'est le rudiment de la vision, c'est l'ABC. Hein. C'est des verbes d'accueil. J'accueille, des verbes de réception de grâce. Et là, c'est la victoire. Et c'est la vertu. Alors, vertu, Pierre insiste beaucoup sur la vertu. C'est par la gloire et la vertu de Dieu que vous... Et ensuite, après, Pierre dira, quelques versets plus loin, il dira, ajoutez à votre foi, quoi? La vertu. C'est quoi, vertu? Étymologie de vertu. Voilà. Je ne savais pas non plus, j'ai dû prendre des... Alors, Michel sait tout ça, parce qu'elle est... linguiste, mais moi j'ai dû prendre le dictionnaire. C'est le mot vir qui est dedans, vir qui est viril, la virilité. En fait, quand ce mot a été construit, c'est-à-dire d'être un homme, une femme, si vous voulez, enfin, au sens d'être debout, pas courbé, ce sens de domination, être parfaitement dans cette notion du plan de Dieu qui veut que nous puissions dominer, gérer les choses, et pas être géré par les autres. Et là, on rejoint tout l'enseignement de Maxwell sur le leadership, qui enseigne ça autrement, mais c'est les mêmes principes, c'est la vertu. Et la vertu, dans notre vision, puisque maintenant on a une petite plaquette, en tout cas, elle est un peu dense, mais qui donne les éléments, la vertu, c'est l'ADN, hein, c'est notre ADN, qui conduit aux valeurs. C'est les valeurs. Nous portons les valeurs du royaume de Dieu. Par la vertu, nous avons les valeurs. Et si nous pouvons vivre notre vie sur les valeurs du royaume, par la vertu de celui qui nous donne cette virilité, cette énergie, cette autorité, cette puissance, cette capacité d'accomplir ce que Christ a fait, nous sommes des pères et des mères. Nous sommes des télios, des parfaits. Mais vous voyez bien que ces éléments nous amènent à être responsables. Nous sommes responsables de notre vie chrétienne. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, de l'héritage que nous avons reçu, de l'ADN que nous avons reçu. Est-ce que nous le faisons grandir ou est-ce que nous l'étouffons? Est-ce que nous le permettons de grandir ou pas? Alors il y a des chrétiens qui font ça, hein, ils reçoivent l'ADN, ils montent en flèche et après ils retombent et ils font ça. D'autres qui font ça, qui restent sur un plateau. Mais le Seigneur veut qu'on grimpe comme ça. Enfant, jeune homme, père. Il veut que nous soyons des télios, de gloire en gloire, selon le Seigneur. Amen. On va arrêter là. Je n'ai fait qu'un tiers de ce que je voulais vous dire, mais je crois que c'est important qu'on comprenne les fondamentaux de notre identité. Notre identité... Et dans le fait que nous accueillions le plan de Dieu, et vous, l'identité c'est... Parfois on parle l'identité c'est quoi? Ce que je viens de Roumanie, de France, machin, vous voyez, ça c'est l'identité humaine. Non, l'identité vient du ciel. Donc nous devons accueillir le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, universellement et spécifiquement. Nous devons bénéficier de la sagesse. Et qu'est-ce que dit Jacques? Si vous n'avez pas la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas dit, forcez-vous à l'avoir. Okay? Il n'a pas dit suivez une méthode, méthode Coué ou méthode, je ne sais pas, Berlitz, pour avoir la sagesse. Vous voyez, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a peut-être des méthodes. Enfin, bon, il y a des méthodes. Les francs-maçons, ils ont leurs méthodes. Au 18e degré, vous êtes sage, vous voyez. Bon, ça, c'est de la, je dis, entre nous, de la foutaise. Hein. Je veux dire, c'est vraiment du mensonge. La vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Commencement de la sagesse. Vous voyez, c'est en Dieu que nous recevons la sagesse. Donc, l'identité, c'est quand nous bénéficions de la sagesse de Dieu. Donc, demandons-la si nous ne l'avons pas. C'est très simple, hein. Il suffit de la demander. Et de croire. De croire. Et centrer sa vie sur Christ. Oui. Et centrer sa vie sur Christ au travers de la vocation, de la vérité et de la vertu. Amen. C'est des choses un peu à développer après. Pas si je le ferai dimanche prochain, mais c'est important. Connaître notre identité. Et quand nous avons notre identité, ce n'est pas les autres ou l'entourage qui nous contrôlent. C'est nous qui sommes autonomes par Christ pour influencer les autres et pas être influencés. Et les chrétiens sont beaucoup trop influençables parce qu'ils ne rentrent pas dans cette perfection qui est prévue par Dieu. Et ils rentrent dans des sous-cultures évangéliques. Et je vois trop de sous-cultures évangéliques sous prétexte que c'est la culture biblique, c'est complètement faux. Complètement faux. C'est un leurre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le témoignage que nous devrions voir. Nous devrons être des personnes qui sommes des pères, qui influençons les autres. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions et te louons parce que tu as un plan pour nous. Tu veux nous donner la sagesse. Et Seigneur, tu nous as donné Christ. Et tu nous as donné comme modèle et comme initiateur d'une nouvelle race. Et nous sommes de sa race, de ta race, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'accepter de grandir, comme nous l'avons fait, peut-être nous ne l'avons pas fait, mais Seigneur, dans cette nature naturelle, nous voulons grandir dans cette nature spirituelle avec toi. Et nous te remercions de ce que tu as un plan pour nous et une vision pour nous. Et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.